Mémodio, une mémoire sonore.
Le micro est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions ou faire des remarques. Apportez votre pierre.
Eh bien, d'abord, merci pour ces passionnants échanges. Alors, vous disiez que les gens n'étaient pas... Enfin, vous parliez des jeunes, n'étaient pas forcément allergiques au travail. Ils voulaient quand même, dans une certaine mesure, travailler. J'ai l'impression qu'il y a quand même une aspiration à passer moins d'heures au travail, en général. Donc, déjà, est-ce une idée reçue que je me fais ou pas? Et j'ai l'impression que cette aspiration est assez générale, pas que chez les jeunes, ça je veux dire, et qui a surtout une contradiction avec, disons, une certaine frange des politiciens et politiciennes qui nous bassinent qu'il va falloir travailler plus, que tout le monde doit travailler plus, plus longtemps.
Pour gagner plus.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et pouvez-vous commenter sur ce qui me semble être une contradiction assez apparente?
Qui veut répondre?
Petit mot et te laisser peut-être après la parole. Oui, alors je pense que c'est juste, hein, effectivement, les heures supplémentaires, on n'a plus le vent aux poupes, l'image de l'homme pressé, n'est pas non plus valorisée par les jeunes générations. Donc il y a effectivement une volonté, je disais un petit peu tout à l'heure, aussi de concilier davantage le travail avec le hors-travail. Hein, de garder du temps pour soi, pas seulement pour sa famille et ses enfants, mais pour penser aussi des loisirs, pour penser à un hors-travail. Donc ça, je pense que c'est une dimension importante et qui montre bien que le salaire n'est pas l'entrée principale. Après, peut-être un peu à contre-courant, ce qui en tout cas change, puisque je disais tout à l'heure, ça change pas tant que ça, etc. Mais dans le rapport au travail des femmes, lui, a énormément évolué depuis les années 60. Et c'est vrai que on ne souhaite pas travailler plus, mais en même temps, moi, ce que je découvre dans mes enquêtes, donc dans des milieux qui sont aussi des milieux, comme je le dis, très populaires, c'est que je ne rencontre plus aucune fille qui aspire à rester chez elle, à être femme au foyer. Toutes, sans exception, je n'en ai pas rencontré une seule, souhaitent un travail rémunéré qui lui procure et aussi de la reconnaissance, mais de l'autonomie au sein de la famille. Et ça, je pense que dans les transformations d'importance qu'on a depuis les années 70, pour les femmes, celle-ci, elle a été vraiment, vraiment importante.
Oui, ça c'est vrai. J'adhère totalement. Pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que ce soit une idée reçue. Enfin, moi, je la sens particulièrement vraie. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que la jeune génération a un souci beaucoup plus que les autres qui l'ont précédé, de compatibilité entre vie professionnelle et vie privée ou familiale. Je sens ça vraiment très fort. Peut-être qu'il faut, c'est intéressant de croiser aussi d'un point de vue sociologique pour le coup, parce que la jeune génération qui est là, c'est beaucoup d'enfants de parents divorcés. Un divorce sur deux à Paris, un sur trois en province, de divorce, je ne parle même pas de séparation. Et ce sont des... Alors, c'est difficile de généraliser, hein, il faudrait rentrer plus dans le détail, mais parmi les causes de séparation, effectivement, il y a peut-être au niveau des parents un surinvestissement dans le travail qui sont très nombreux à reconnaître aujourd'hui qu'ils n'ont pas vu grandir leurs enfants parce qu'ils ont trop travaillé. Donc, et je crois qu'il y a une volonté des jeunes de ne pas vouloir refaire cette erreur-là. Donc, dans cette recherche d'équilibre. Et après, travailler plus pour gagner plus, pour moi, c'est une politique qui est déjà quand même bien datée. Elle n'a pas trop marché. Et là, on pourrait lui opposer quelque chose qu'il y avait au début des années 70, qui était plus aujourd'hui travailler moins pour vivre mieux. Et avec une moindre importance accordée à la rémunération. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais
Oui,
simplement réagir parce que ça rejoint la dernière question sur la, que vous posiez sur la question écologique. Il me semble que derrière travailler plus pour gagner plus, c'est de quel travail on parle. Et le problème, c'est la valeur qu'on donne aussi aux emplois qui sont, enfin, les emplois qui sont valorisés et ceux qui ne le sont pas. Donc je suis quasi certaine que si on dit travailler plus dans telle et telle activité avec des conditions qui permettent de le faire bien, bah là on est plutôt d'accord aussi pour le faire. Donc il y a aussi cette question-là derrière le travailler plus pour gagner plus. Et puis il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait rajouter à cette phrase, avec moins de moyens, c'est aussi ce qu'on propose dans beaucoup de secteurs. Donc c'est vrai que cette invitation devient un peu problématique dans beaucoup de métiers.
Oui, merci beaucoup pour vos interventions et pour répondre à votre question. J'invite Coluche qui disait tout simplement, c'est pas vrai que les gens, tout le monde veut de l'emploi, lui suffirait de l'argent. Donc c'est... sur ça, en fait, j'aimerais rebondir aussi pour faire un rappel de l'étymologie du mot de travail. Qui vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture. Effectivement, c'est un peu controversé, mais rien que ça, le fait que ça a été véhiculé, ça donne un peu la connotation. Mais à ce propos aussi, je me disais, on a entendu effectivement des témoignages, certains dans la salle, notamment parmi les exposantes, les présentatrices, désolé, du fait qu'on peut changer, qu'on peut peut-être retrouver des poches de sens dans un milieu assez rigide, assez, en tout cas, visant justement à optimiser un seul objectif, notamment la croissance de la PIB, du PIB. Donc, à quel point il ne faudrait pas se poser la question, bien sûr, la question a été posée, pour ne pas élargir l'opportunité de trouver ces poches-là, ou faciliter, mais plutôt que le système lui-même change, à savoir qu'on n'est pas obligé de trouver justement des poches avec du sens. Et à ce propos, je me disais, je lisais récemment une statistique sur le fait que, bizarrement, les personnes qui déclarent elles-mêmes avoir le plus de sens au travail, c'est-à-dire les personnes soignantes, les personnes, par exemple, les artistes, les enseignants, ce qu'on appelait à l'époque du Covid les personnes essentielles, sont donc elles clament avoir le plus de sens et pourtant sont les plus précaires. Merci.
Une réaction si
vous sur l'étymologie souhaite. Peut-être sur l'étymologie.
Bah, allez-y.
Non, c'est vous. Moi, je suis.
C'est simplement, j'ai lu un article récent comme quoi cette étymologie tripalium était remise en question. Et
qu'est-ce qui a pris la place?
Alors, je serais incapable de vous le dire. mais vous pouvez le trouver facilement.
Oui, bonsoir à vous. C'était très sympa d'entendre, de vous entendre un peu converser. C'était sympa. Ça m'a fait penser un peu à Christophe Dejour que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Votre travail, un peu. En fait, vous êtes sur ses traces. Peut-être que vous deviendrez le Christophe Dejour au féminin, tant mieux pour vous. Le sens du travail, ça englobe beaucoup de domaines. Et il y a un domaine que je m'aperçois quand je parle avec des jeunes, quand je discute avec des jeunes, c'est la peur de l'avenir. Beaucoup de jeunes pensent que l'avenir est capturé. Les IA arrivent, on ne sait pas trop ce que c'est, comment ça va être fait. Vous savez ce qu'on appelle les COBOL, c'est-à-dire les robots collaborateurs. On ne sait pas trop, on commence en France à en fabriquer. Et donc, du coup, ça ne va pas cultiver le sens du travail dans le bon sens. Et quelle réponse donner à ces phénomènes-là ? Voilà ma question.
Et vous avez mille fois bien fait d'évoquer l'IA, parce que ça faisait partie aussi des questions prévues et on n'avait pas trop eu le temps. Effectivement, c'est la robotique et l'IA en particulier vont changer. Alors, j'ai les données.
Oui, c'est une réponse expérientielle et en même temps personnelle par rapport à l'IA. Vous imaginez bien que confronté à la jeune génération, ils maîtrisent tout ça mieux que nous. Et ils utilisent abondamment. Donc on a été obligé de revoir toute notre façon d'enseigner, toute notre façon d'évaluer, etc. Nous, c'est vraiment une remise en cause du métier. J'y vois l'aspect positif pour beaucoup de nous obliger, c'est même pas nous inviter, de nous obliger à nous questionner sur notre véritable plus-value. en tant qu'enseignant. Mmh. Voilà. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que ce que j'appelle la machine ne peut pas apporter aujourd'hui. Bon, donc ça, je trouve le côté positif. Hein. Je garde la double face de Prisca qui me plaît bien. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais j'essaie de trouver le positif. Et alors, le sens dans tout ça, moi, j'ai envie de le trouver dans... je dois d'une façon ou d'une autre me débrouiller pour, enfin, me débrouiller ou avoir acquérir la connaissance pour, etc., faire en sorte que je contrôle autant que faire se peut ce que produit la machine. Ça veut dire que, nous, en tout cas, les formations qu'on a reçues, on part d'un principe de base. Tout ce que vous dit ChatGPT, Gemini et autres, considérez que c'est faux. Et donc, c'est à vous débrouiller pour avoir les connaissances suffisantes pour être capable de vérifier si c'est juste ou si c'est vrai. Voilà. Mais là, on est vraiment à une charnière et je ne pourrais pas aller bien au-delà de ça. Je peux juste vous citer dans mon domaine. On a aux États-Unis, en Australie, mais en France, ça va arriver, des avocats qui ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle un peu trop, qui fait des hallucinations, comme vous le savez. Hallucinations, ça veut dire qu'on invente des décisions de jurisprudence auxquelles on se réfère, ça veut dire qu'on n'est pas à jour des textes de loi, etc., et qui n'ont pas fait la vérification, et qui sont condamnés par les tribunaux pour manquement à leur obligation d'information et de conseil. Alors moi, comme je suis un peu perverse sur les bords...
Vous buvez du petit lait.
C'est ma dark side. Je me dis, mais j'espère qu'il va y en avoir plein de décisions comme ça pour que les professionnels comprennent, et les jeunes générations comprennent, que l'IA, ce n'est pas la réponse à tout.
Un commentaire ou... Margot ?
J'allais juste réagir à la question précédente. Voilà, il me semble que, en tout cas, ce que font émerger les diverses enquêtes dans l'ouvrage qui circule, c'est quand même l'importance d'accompagner des espaces de débat, en fait, à l'intérieur des organisations, à l'extérieur bien sûr, mais à l'intérieur des organisations du travail, pour penser quelle définition on donne à notre travail, à quelles conditions on peut bien le faire, et qu'en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui dans les organisations du travail. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les conditions actuelles. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur l'intelligence artificielle, parce que ça me dépasse autant que tout le monde, et je n'ai pas travaillé dessus. Mais peut-être sur votre interrogation sur la peur qui serait captivée des jeunes,
il me semble...
Voilà, sur l'avenir, ça rejoint la question du monsieur au début sur... des jeunes qui voudraient moins travailler. En tout cas, le rapport au travail, encore une fois, il se construit par rapport aux projections dans l'avenir. Donc c'est vrai que si cet avenir, c'est un avenir catastrophique, c'est difficile aussi de se projeter dans des emplois qui produisent et participent à la production de cette catastrophe. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi à penser sur le point de vue de la jeunesse ou des jeunesses. Et je laisse la parole à mes collègues.
Bonsoir. J'ai trois questions à vous poser. Il y en a une qui est d'ordre juridique. J'ai eu levé de sourcils tout à l'heure lorsque vous avez parlé de questions de code du travail, en disant le code du travail est largement suffisant pour traiter des questions de conditions de travail, de mortalité sur le travail et de manière moins extrême, mais toujours aussi actuelle, d'accident du travail. Je suis quand même très étonné d'entendre une assertion de ce type. Qu'est-ce qu'on fait des lois Macron de 2014 ? Qu'est-ce qu'on fait de la loi El Khomri de 2016 ? Qu'est-ce qu'on fait de l'inversion de la hiérarchie des normes ? Je veux dire, avant, on avait un ensemble législatif de base, qui nous permettait d'avoir un ensemble de lois minimales protectrices. Et après ça, selon que l'accord de branche puis que l'accord d'entreprise était favorable, il pouvait s'appliquer pour avoir une protection plus ou moins importante selon le type de travail qui était fait et les conventions collectives étaient là pour être protectrices. Depuis, tout ça a été chamboulé. On se retrouve avec des situations où on a des entreprises ou des branches dans lesquelles les normes légales ne sont plus protectrices au point où elles devraient l'être, avec des applications législatives moins protectrices. On ne peut pas particulièrement dire que depuis que le quinquennat Macron a commencé, enfin, maintenant il s'achève bientôt, qu'on ait eu une amélioration significative de la qualité au travail, notamment dans les branches qui sont liées à l'industrie, notamment dans les branches liées au BTP, etc. Bien au contraire, on a eu beaucoup plus d'accidents du travail et on est les recordman en Europe, on est également les recordman de morts au travail. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce sujet-là ? Le deuxième, c'est par rapport, on parle de sens du travail, mais la question pour moi elle est insidieuse. Quel travail ? On ne met pas de qualificatif. Un travail subordonné sous une contrainte capitaliste, ce n'est absolument pas la même chose qu'un travail libre ou qu'un travail de reproduction au sein du foyer. On est sur des catégories qui sont complètement différentes. Donc, parler du sens de travail dans un contexte subordonné, ça n'a strictement rien à voir avec celui qu'on pourrait donner à, par exemple, je chôme mon 1er mai et je fais du bricolage de mon jardin. Rien à voir. Troisième question, et dernière. On parle de sens du travail. Vous avez dit que, nos chers politiques de droite se sont affairés à réduire notre capacité à avoir un salaire qui nous permet de répondre à nos conditions matérielles d'existence, le salaire, ça reste la bataille historique, ça reste l'alpha et l'oméga du travail subordonné capitaliste. C'est là-dessus que se pose la question. Évidemment que les conditions de travail comptent. Mais parler des conditions de travail sans parler de la question salariale et des conventions collectives sur lesquelles s'appuie, je ne vois pas bien où on va. D'autant plus que la question du 1er mai, syndicalement parlant, c'est avant tout une question sur la question du salaire. Je veux dire, on a un ensemble de syndicats patronaux qui n'arrêtent pas à longueur de journée de faire couler leur langue lacrymale sur le fait que, mon Dieu, les cotisations sociales salariales sont trop élevées. Hein, on a des assurances collectives qui nous coûtent trop cher. Hein, notre système est trop généreux. Non, non, messieurs. Le salaire que nous recevons en tant que travailleurs, c'est nous qui le produisons. Et tout ce que vous avez, c'est de l'extorsion de plus-value. Ce n'est pas vous qui le produisez. Ce sont les gens qui travaillent sous votre régime de subordination. Donc, parler de sens du travail, est-ce que ça a un sens si on ne parle pas principalement d'abord du salaire ?
Merci. Vous avez donc trois questions.
Et combien de temps pour y
répondre ? 3 heures. Parce que justement, le droit du travail nous contraint à terminer à 19h30.
Combien de temps ? Parce que les trois questions sont très intéressantes et merci beaucoup. Et en même temps, il faudrait pouvoir prendre plus de temps. Alors, la première sur tout ce qui est santé, sécurité au travail. Le code du travail. Comment dire ? Alors, il faut qu'on soit sûr de bien se comprendre. D'accord ? Moi, quand je dis le code du travail, faire gaffe à pas trop en rajouter. Il y en a déjà pas mal et occupons-nous de rendre effectif ce qui est écrit dedans. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. D'accord ? Au contraire, moi je dis plutôt que de travailler au niveau du Parlement, etc., travaillons au niveau des organes de contrôle, travaillons, etc. Bon. Donc, par rapport aux accidents du travail, ils n'augmentent pas. Je suis obligée de faire quelques rectifications par rapport à ce que vous avez dit. Et puis, si vous voulez, on en rediscutera. Alors, je dois partir assez vite après. Mais on peut. Et puis, vous avez 3 super étudiantes là-bas qui finissent leurs études en droit social. Vous allez pouvoir faire leur connaissance. Vous allez boire un café. Et puis, elles rectifieront là où il y a besoin de rectifier. Alors, très, très vite. Les accidents du travail n'augmentent pas en France. En revanche, ce qu'on observe, c'est la distinction entre les accidents physiques et les accidents de santé mentale liés au burn-out. D'accord ? Et on observe 2 courbes. Ça veut dire que les accidents de santé physique ils diminuent. On a plutôt fait des progrès là, mais ces progrès sont complètement neutralisés par tous les problèmes de santé mentale, dépression, burn-out au travail, etc. Donc, on est... Mais pas dire balle au centre parce que le sujet est trop grave pour plaisanter avec ça, mais voilà. Mais il n'augmente pas et je suis pas sûr. Bon, au niveau statistique, je suis pas sûr qu'on soit les pires en Europe, mais peu importe, ça m'est égal. Ce que je sais, c'est qu'il y en a trop. D'accord ? Bon, point de suspension. Ordonnance Macron, 2017, je ne sais pas, vous avez parlé loi 2014 Macron, je ne sais pas trop à laquelle vous faites allusion. Il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Tout le monde a écrit ça, les journalistes ont écrit ça, mais ils se trompent. Il n'y a pas assez de journalistes juridiques en France. Il n'y a pas de vraie inversion de la hiérarchie des normes. En revanche, il y a une prévalence maintenant donnée à la négociation collective. Demandez, on va faire un petit test de truc quand je dis à mes étudiants, si, surtout aux étudiants étrangers, si vous ne retenez qu'une seule chose des cours que vous avez appris en France, c'est qu'en France, le droit du travail est un droit.
Allez, vous êtes interrogé. Un droit
négocié aujourd'hui. Donc, beaucoup moins d'importance. Beaucoup moins d'importance accordée à la loi et en revanche confiance aux partenaires sociaux, dialogue social. Et donc vous avez raison, les conventions et accords collectifs de travail sont devenus super importants. Et là, le gouvernement, il a fait un peu de défausse, quoi. Il a dit, moi, je peux faire beaucoup mieux aux syndicats de faire leur truc et entreprise par entreprise, branche par branche, d'améliorer tout ça. Okay. Et quand je dis qu'il n'y a pas inversion de la hiérarchie des normes, ça veut dire que c'est prévalence aux accords d'entreprise. Mais selon les cas, la loi, elle garde toute son importance en tant que cadre. Et puis, il y a une meilleure répartition entre ce qui va pouvoir être négocié au niveau de l'entreprise et au niveau des branches d'activité et au niveau interprofessionnel. Alors, ça nous amène dans des connaissances un peu techniques. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Mais bon, voilà, retenez ça. Peut-être, bien sûr, complètement d'accord... Il y avait un autre truc juridique, mais je ne sais plus.
Sur le troisième point, c'était...
Bien sûr, par rapport à ce que vous avez dit, le travail qui manque de qualificatifs, évidemment. Donc là, nous, on a beaucoup parlé de travail salarié. Les apprentis sont considérés juridiquement comme des salariés. On a parlé de la subordination qui fait que, voilà, ce n'est pas toujours facile d'y trouver du sens. Mais évidemment qu'il faudrait tout ouvrir, le travail indépendant.
Du reste, Margot l'avait souligné.
Margot l'avait souligné, bon, etc. Donc, bien sûr qu'il faudrait ouvrir sur toutes les formes de travail. Mais je ne sais pas si ça influe tant que ça sur la question du sens et ce qui amène. Mais en revanche, je vous posais une bonne question. C'est l'influence du statut professionnel sur le sens qu'on peut ou pas trouver dans le travail. Sous-entendu, est-ce que c'est plus compliqué de trouver du sens au travail quand on est salarié et donc sous la coupe d'un employeur ? Ça, je crois que c'est une vraie question. Et vous faites bien de la poser. Et puis, il y en avait une troisième. Mais c'est tout ça des réflexions. On pourrait y passer la nuit. Hein.
Une question, Margot, sur son livre. Vous avez exploré les pratiques sportives. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Et puis une deuxième question. Et la deuxième question, comment vous est venue l'idée de l'exemple de salle travail ?
Merci pour cette question. Alors, je rappelle juste que j'ai pas écrit ce livre toute seule. Je l'ai coordonné. Et donc, on est 7 coordinateurs d'un ouvrage écrit à plusieurs mains avec différentes enquêtes de, voilà. Donc, il y a beaucoup de voix.
On peut retrouver au fond de la salle, voilà, je le rappelle.
Oui, tout à fait. Qui se trouve, notamment dans la table du fond, en quelques exemplaires, que vous pouvez prendre si vous le souhaitez. Pour répondre à votre question sur les professionnels sportifs, c'est ça. Il y a une enquête qui porte sur les professionnels équestres. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez. Ou les artistes. En tout cas, c'est des métiers qui sont souvent qualifiés dans les métiers passion. Voilà, tout à fait. Ah oui, bah, je vois que Lisa a bien lu l'ouvrage. Et donc, c'est des métiers vers lesquels on va, parce qu'il y a un sens avec, par exemple, la relation à l'animal, le cheval, pour les métiers équestres, ou les artistes, juste une volonté de produire quelque chose d'artistique pour un public, etc. Et ces enquêtes montrent toujours, encore une fois, je me répète un peu, mais que ce n'est pas parce qu'on a une passion ou une vocation, en tout cas quand on parle de métier passion, une vocation pour une activité, que le sens peut se maintenir si les conditions ne le permettent pas. Les conditions physiques pour les artistes, par exemple, il y a une enquête qui montre que font les artistes quand ils ont, par exemple, qui travaillent dans les cirques, qui ont un accident du travail, comment ils arrivent ou pas à continuer à maintenir du sens, même en n'ayant plus le corps autant performant. Et puis, dans les centres équestres, c'est comment faire avec les enjeux de concurrence, la pression économique. Et voilà. Donc, ces conditions participent du sens du travail. Vous aviez une deuxième interrogation.
Sur le sale travail, c'est sur bien, le si sale j'ai travail. Bien compris.
Voilà, alors, oui, effectivement, le sale boulot. Alors, c'est pas... sur le sale boulot, alors c'est pas une... À l'exemple sur les thanatopracteurs, Alors encore une fois, ça c'est une enquête qui allait interroger les personnes qui travaillent sur les corps des morts, en fait. Donc c'est pas une image en soi, c'est vraiment une enquête. Et dans les enquêtes qui parlent du sale boulot, il y a aussi, par exemple, les contrôleurs de chez France Travail qui ont pour métier de la perception que les autres en ont, c'est de fliquer si on a bien trouvé un emploi quand on est en train de quand on est inscrit à France Travail. Et par exemple, l'enquête montre que certains travailleurs, pour retrouver du sens là-dessus, transforment dans leur pratique quotidienne le dispositif de contrôle en un dispositif d'accompagnement. C'est-à-dire, oui, il y a des coups de fil, oui, il y a des mails, mais au fond, ils essaient en fait d'accompagner des personnes en difficulté plutôt que de les fliquer, vous voyez. Donc on voit bien comment
on donne du sens,
on le construit au quotidien dans le travail. Et ce n'est pas simple.
Les huissiers aussi sont dans cette catégorie-là, hein, sur le sale boulot. C'est compliqué, ouais. D'accord. Les contrôleurs des impôts, c'est compliqué, etc. Donc il faut... Ouais, l'huissier, on est d'accord, il y a du vécu. Non. Juste, je voulais rajouter par rapport au thanatopracteur. Je ne sais pas si vous donnez des conseils de lecture ou de film, mais
allez-y, parce que je regarde l'heure. Et là, ce sera les mots derniers. De la fin.
Et juste, alors, sur le thanatopracteur, moi, si le sujet vous intéresse, je ne sais pas comment il pourrait vous intéresser, mais c'est par rapport à la. J'étais étonnée de Sale Boulot, parce qu'il y a un film remarquable qui est un film japonais. C'est juste pour évoquer la question culturelle. Et te dire que d'un pays à l'autre, parce que notre jeune génération, elle est worldwide, d'accord ? Elle n'est pas ni de Toulouse, ni de France, elle est ouverte au monde. Et c'est un film japonais qui s'appelle Le Passage, et qui parle de ce métier-là, et qui décrit ce métier-là avec la culture du pays là-bas, et qui le décrit comme une vocation, et c'est vraiment un privilège. Et quand on regarde les choses sous cet angle-là, on se dit que oui, c'est un métier qui a du sens, parce que c'est des moments de vie, on est tous passés par là, où lorsqu'on perd un être cher, là, il y a quelqu'un qui est chargé d'accompagner la famille, qui est chargé de s'occuper du corps, de le rendre le plus beau possible. Ça n'a rien de triste. D'accord ? Mmh. Et quand on compare avec la façon dont on enterre nos gens chez nous, ça nous fait réfléchir. Voilà, juste. Et pour revenir au Japon et aux pays asiatiques, et pour revenir aux juristes, nous, on est considérés, les juristes au Japon, c'est des gens qui font du sale boulot. Il n'y a pas du tout la conception qu'on a en France de l'avocat, du magistrat, du sachant. Les juristes, dans la culture asiatique, dans certains pays d'Asie, c'est des gens qui font le sale boulot. Pourquoi ils font le sale boulot ? Parce qu'ils interviennent quand les gens, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux.
Ah oui.
Vous voyez ? Donc, attention à relativiser en fonction de la Wanée, du pays, etc., etc.
Prisca, quelques mots de conclusion, parce que je vois si vous souhaitez, et puis Margot, et la discussion pourra se poursuivre éventuellement dans l'intimité. Une phrase.
Oui, peut-être. Allez. Juste pour rebondir sur la question du salaire, parce qu'elle me semble effectivement importante. J'ai en tout cas à aucun moment voulu dire que les conditions matérielles d'existence n'étaient pas centrales. Bien évidemment, c'est central. Bien évidemment. Là, c'était par l'angle du sens au travail. Hein, c'est tout pas par le premier aspect qu'on évalue et qu'on estime nos tâches, notre activité, notre travail. Mais bien évidemment, le salaire reste dans le rapport de force, comme vous le dites, la question centrale au travail, bien évidemment. Voilà, c'était juste pour...
Margot, un mot pour conclure ou...
Remercier, non, ce n'est pas nécessaire. Je pense que la parole est à tout le monde, donc je la laisse.
Parfait. Alors, Lise, vous nous promettiez une phrase.
Si vous me laissez le privilège, pour le coup. On s'est posé la question de savoir si c'était nouveau pour la jeune génération ou pas. Par rapport à votre question, je rebondis. Moi, je pense que tout est lié. Et au fait que nos jeunes cherchent autant de sens à leur travail, je pense qu'évidemment, tout ça est à relier à l'incertitude du monde dans lequel on vit. Et à toutes ces informations qu'on a, et etc. Et qui les inquiètent, évidemment, vous imaginez bien. Donc, parce que c'est eux qui vont devoir faire avec ça. Donc, je crois que tout est lié. Et en même temps... Je suis repartie en préparant la conférence et c'est pas la première fois que ça arrive, cette inquiétude sur l'avenir du monde. Et juste après-guerre, après le deuxième conflit mondial, en 1944, lorsqu'on a eu ce qu'on appelle la déclaration de Philadelphie, et là c'est un autre conseil de lecture que j'aurais envie de vous donner, c'est un petit livre, il a vraiment été écrit pour le grand public. L'auteur s'appelle Alain Supiot, S-U-P-I-O-T, et le livre s'appelle « L'esprit de Philadelphie ». Et la déclaration de Philadelphie, elle date de 1944. Et voilà le petit extrait en trois lignes. Le travail n'est pas une marchandise. La conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du travail, donc c'est la seule organisation internationale connue dans ce domaine-là, de seconder la mise en œuvre parmi les différentes nations du monde de programmes propres à réaliser l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, d'accord, donc favoriser l'emploi de travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, et ça je crois que c'est important, besoin de savoir et de reconnaissance de ce qu'on sait faire, et de leur connaissance, et de contribuer le mieux au bien-être commun. Moi c'est ça que je sens.
Merci. Merci à vous, bien évidemment. Merci à nos invités. Je vous donne rendez-vous le jeudi 28 mai, 18h. Le thème, ce sera l'humour en procès. Voilà, on reste donc... Un grand merci.
Mémodio, une mémoire sonore.